Imaginons juste une seconde la scène suivante. On est au centre d'une grande pièce et d'un seul coup, toute la conversation s'arrête.
Ah, le gros malaise.
Ouais, le silence total. Tous les regards convergent vers nous. Mais attention, c'est pas des regards bienveillants, hein. C'est un mélange hyper lourd de mépris, de jugement moral et de rejet absolu.
Ouais, je vois très bien. C'est la panique.
Exactement. C'est une réaction viscérale. On sent cette espèce de chaleur monter au visage, tu vois, et on ressent cette urgence absolue de disparaître, de se fondre dans le mur ou juste de partir en courant pour fuir cette pression sociale qui est écrasante.
Bah, en fait, c'est l'instinct de survie psychologique le plus fondamental de l'être humain, quoi. Face à l'hostilité d'un groupe majoritaire, notre cerveau archaïque, il nous donne pas 50 options. C'est soit on s'assimile totalement à la meute, soit on fuit le plus loin possible du danger social.
Ouais, et cette urgence de fuir, elle est universelle. Mais justement, aujourd'hui, on va plonger dans un manuel de survie psychologique, un texte vieux de 2000 ans, qui exige de ses lecteurs de faire exactement l'inverse.
L'exact opposé, oui.
Notre exploration d'aujourd'hui, elle se concentre sur une source vraiment remarquable. C'est les travaux du docteur David A. de Silva. Il analyse l'Épître aux Hébreux et plus spécifiquement le chapitre 10, les versets 19 à 39.
C'est un passage fascinant.
Et grave. Et l'idée ici, c'est pas du tout de traiter ce texte comme un vieux truc religieux poussiéreux. La mission de notre plongée dans ces sources, c'est de décoder comment un auteur antique a utilisé des stratégies rhétoriques de génie pour empêcher un groupe marginalisé de s'effondrer sous une pression sociale phénoménale.
Et ce qui est fou d'entrée de jeu, c'est le contraste dans la structure même du texte. Parce que pendant des chapitres entiers, du chapitre 7 jusqu'au bonilieu du chapitre 10, l'auteur a construit une architecture théologique mais vertigineuse.
Ouais, c'est hyper dense.
Très dense. Il a disserté sur des concepts ultra abstraits, genre le rôle de Jésus comme grand prêtre dans un temple céleste. C'est vraiment de la haute théorie, on frôle la métaphysique.
C'est clair.
Et puis, soudain, au verset 19, paf, le ton bascule. C'est d'une brutalité fascinante. Le livre de théorie, il se ferme d'un coup sec, l'auteur redescend direct sur terre, dans la boue et les rues hostiles d'une ville du 1er siècle. Et là, il passe à l'action immédiate.
Ouais, l'heure des diagrammes au tableau, c'est fini, quoi. C'est le moment d'aller sur le terrain. Et pour bien comprendre comment ce groupe devait survivre, il faut d'abord qu'on examine sa première consigne vitale, à savoir s'appuyer sur la communauté.
Exactement, le lien social avant tout.
Bon, alors, décortiquons un peu tout ça, parce que là, il y a un énorme piège. Un vrai souci dans nos traductions modernes qui, en fait, fausse complètement l'intention de l'auteur.
C'est tout à fait ça. Le docteur de Silva y met le doigt sur une distorsion majeure. Si on lit le verset 24 dans nos Bibles d'aujourd'hui, en anglais ou en français, on tombe souvent sur des trucs du style « veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour » ou « pour nous provoquer aux bonnes œuvres ».
Ouais, le mot « provoquer », ça sonne bizarre.
Bah oui, le vocabulaire utilisé, inciter, provoquer, ça transporte une dynamique de coercition, en fait. Ça donne l'impression qu'il faut pousser quelqu'un dans le dos, tu vois, le forcer à avancer malgré lui.
Ouais, c'est genre une pression de groupe soi-disant positive, mais ça reste une pression, quoi. Une espèce d'exigence de productivité morale, c'est un peu lourd.
C'est ça. Mais, et c'est ce qui est fascinant ici, c'est que le verbe grec original, katanoumen, ça suggère absolument aucune coercition. La traduction littérale, c'est juste « continuons à nous considérer, à nous observer très attentivement ».
Ah ouais, c'est juste observer en fait.
Voilà. L'action première que l'auteur demande, c'est pas d'imposer un comportement, mais de voir l'autre, de le voir dans toute sa réalité complexe. Tu imagines, dans le monde antique, ce groupe minoritaire, il est effacé, ridiculisé, invisibilisé par la société dominante. Donc s'observer attentivement entre eux, ça leur redonne de l'humanité.
Ça change tout.
Complètement. Cette observation silencieuse des luttes de l'autre, c'est le berceau de l'empathie, en fait. Et c'est de cette reconnaissance que naît ensuite ce que le texte grec décrit vraiment comme une explosion.
Une explosion d'amour, c'est ça?
Ouais. Un accès soudain d'amour et d'entraide. La compassion, c'est le fruit de l'attention, pas d'un ordre qu'on te donne.
Bah oui, c'est une nuance qui change tout. Moi, ça me fait penser, c'est la différence flagrante entre un coach de vie un peu toxique et un vrai ami.
Ah oui, j'aime bien l'analogie.
Bah ouais. Imaginons le coach qui déboule dans ton salon alors que t'es au bout du rouleau, épuisé. Et qui se met à te hurler des slogans genre « Allez, lève-toi, tu peux le faire, faut rester positif ». Mais c'est épuisant.
C'est clair, ça donne juste envie de pleurer.
Exactement. Et à l'inverse, le vrai ami, il entre, il dit rien. Il s'assoit, il observe le bazar dans l'appart, il voit tes cernes, il comprend le poids de la semaine que tu viens de te taper. Et en fait, il te voit, tu vois.
Il t'observe attentivement, catanoumen.
Voilà, catanoumen. Et c'est ce regard silencieux qui le pousse, de lui-même, à prendre une éponge pour faire ta vaisselle. Ou juste à s'asseoir à côté de toi sans parler. C'est le regard bienveillant qui déclenche l'action, pas le discours qui culpabilise.
Et ce regard silencieux, il est encore plus vital quand t'es dans une communauté persécutée. Si l'environnement extérieur passe ses journées à te répéter que tu vaux rien, que t'es ridicule, bah, le simple fait d'être regardé avec valeur par tes potes, ça devient ton armure psychologique.
L'armure pour retourner affronter la rue, ouais.
Exactement. Si cet espace-là disparaît, le besoin viscéral qu'on a tous d'être validé, il va pousser les individus à aller chercher l'approbation à l'extérieur, directement auprès de la société qui les oppresse.
C'est terrible. Et du coup, si l'observation attentive, c'est le ciment du groupe, la menace mortelle, le pire truc à faire, c'est se soustraire à ce regard. Le repli stratégique.
Oui, s'éloigner du groupe pour se fondre dans la masse.
Voilà. S'éloigner en espérant échapper aux conséquences sociales. Et là, l'auteur de l'épistilier, il est implacable là-dessus, non ?
Oh, il est d'une sévérité absolue. Il traite pas ça comme une petite faiblesse passagère. Il qualifie carrément ça de péché intentionnel.
Oui.
Ouais, un acte de rébellion volontaire pour lequel, attention, plus aucun rituel de réparation ou de sacrifice n'est possible. Il s'appuie en fait sur une structure juridique hyper précise de l'Ancien Testament, le chapitre 19 du Livre des Nombres.
D'accord. Et ça dit quoi ?
Ce texte hébreu, il trace une ligne rouge très nette entre, d'un côté, les erreurs commises par ignorance ou par inadvertance, qui, elles, peuvent être pardonnées, et de l'autre, les actes de défi commis avec la main levée, c'est-à-dire avec arrogance.
Oui. Et ben c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à accepter cette sévérité comme ça.
C'est-à-dire ?
Ben, mettons-nous 2 secondes à la place d'un gars du 1er siècle. Si je vois que mes voisins commencent à se faire tabasser dans la rue, que j'ai la peur au ventre qu'on confisque ma maison ou que mes gamins se retrouvent à la rue.
Ouais, la peur logique.
Bah oui, le fait d'arrêter d'aller aux réunions, de cacher mes affiliations, de faire profil bas, c'est pas un complot arrogant avec la main levée, c'est de la survie pure et simple. Comment le texte peut condamner un instinct aussi basique et l'appeler de l'arrogance ?
Bah c'est une excellente question et l'auteur, il anticipe exactement cette rationalisation. Pour comprendre la violence de son rejet, il faut qu'on plonge dans la mécanique de la société gréco-romaine de l'époque.
D'accord, le contexte culturel.
C'est ça. C'est une société qui est entièrement structurée autour du système de patronage, la relation entre un mécène et son client. Dans ce monde-là, on ne survit pas tout seul. Un mécène, donc un homme puissant ou même un dieu, il accorde des faveurs, des ressources, de la protection, ce qu'on appelle la charisse.
Ok, la charisse.
Et le client a besoin de ça.
Absolument. Le client a un statut inférieur. Il pourrait jamais obtenir tout ça par lui-même. C'est une relation de dépendance.
Une dépendance mutuelle asymétrique, mais hyper codifiée, quoi. Totalement codifiée. Et en échange de ses dons, immense. Le client, bah, il n'a pas à rembourser avec de l'argent, il n'en a pas. Par contre, il doit une loyauté publique absolue. Il est obligé de proclamer la grandeur de son bienfaiteur sur la place publique.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Et voilà. L'auteur applique cette lentille culturelle à leur situation spirituelle. Dieu, c'est le mécène suprême. Il leur a accordé le don inestimable du salut, et ça au prix du sang.
Donc, choisir de se cacher par peur du regard des voisins ?
Refuser de s'identifier à ce mécène publiquement, dans ce contexte, c'est lui cracher au visage. Le texte dit carrément que c'est piétiner le Fils de Dieu. Répondre à la charisse divine par un silence lâche, c'est de l'hubris, l'insulte ultime.
Waouh.
Pratique. Non, il les force à voir leur retrait non pas comme de la prudence, mais comme une rupture intolérable d'un contrat d'honneur universel.
C'est brillant et en même temps, c'est hyper terrifiant de cadrer les choses comme ça. Il leur enlève toute excuse, en fait. On peut plus dire « je me protège », on doit admettre « je trahis mon bienfaiteur ».
Exactement, le miroir est cruel.
Et face à ce risque de trahison, l'auteur il fait pas dans la dentelle. Il déploie une stratégie rhétorique, un espèce d'ascenseur émotionnel de malade qui fait osciller le lecteur entre la terreur pure et la confiance totale, non ?
C'est tout à fait ça. La section sur la terreur, elle est d'une efficacité chirurgicale. Il parle d'une attente d'un feu zélé, prêt à dévorer les adversaires. Là, il reprend une prophétie d'Ésaïe, mais il l'amplifie pour la rendre encore plus flippante.
Histoire de bien mettre la pression.
Et surtout, il fait un truc très rusé avec le texte du Deutéronome. À l'origine, la phrase « Le Seigneur jugera son peuple », c'était une super promesse de libération. Ça voulait dire que Dieu allait défendre son peuple opprimé par les méchants.
Donc un verset qui devrait leur faire du bien, normalement.
Normalement, oui. Mais là, l'auteur renverse totalement la dynamique. Il joue sur l'ambiguïté du mot « juger » et il transforme ce bouclier en épée de Damoclès.
Ah ouais, du genre « Il va pas juger vos ennemis, il va vous juger vous. »
C'est ça. Si vous rompez le pacte, c'est vous qui prenez. Et la conclusion tombe comme un couperet. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Ah ouais, le but, c'est de créer une peur de l'apostasie, de l'abandon, qui surpasse de loin la peur de la foule en colère dehors. C'est une panique morale totale.
Totalement.
Mais là où il est trop fort, c'est que à la seconde où il les a bien paralysés avec la peur, il fait un virage à 180 degrés. Vers les versets 32, il prend la voix d'un commandant de guerre hyper fier de ses troupes.
Oui, le changement de ton est radical.
Il leur dit, en gros, rappelez-vous les premiers jours, on vous a humilié, on a confisqué vos biens, et comment vous avez réagi ? Bah, avec joie, parce que vous saviez que vous aviez un héritage céleste, tu vois ?
Et si on prend un peu de recul, l'analyse montre que c'est une tactique militaire hyper classique. Le docteur De Silva fait un parallèle incroyable avec le général romain Agricola.
Ah, raconte, c'est qui lui ?
Agricola, selon l'historien Tacite, c'est un général qui se trouvait en Bretagne antique avant une bataille désespérée. Ses troupes étaient mortes de fatigue, terrorisées par les barbares en face. Et au lieu de leur promettre un avenir radieux, il les a forcés à regarder en arrière.
Il a validé leurs souffrances passées.
Voilà. Il leur a rappelé les marées dégueulasses qu'ils avaient traversées, les rivières glacées, les embuscades. Il a utilisé leur passé pour les galvaniser.
C'est le discours de mi-temps ultime, en fait. C'est le but de créer un électrochoc. Si on a survécu à tout cet enfer, bah on va pas flancher aujourd'hui.
Exactement. Psychologiquement, c'est brillant. Ça injecte de la confiance. Et surtout, ça active le biais des coûts irrécupérables. Quand t'as déjà payé si cher en sang et en larmes, tu veux pas tout abandonner. Pourquoi rendre toutes ces souffrances inutiles ?
C'est clair. Et ça boucle avec la peur. Parce que c'est plus juste la peur de Dieu. C'est la honte de gâcher son propre honneur. D'ailleurs, l'auteur utilise beaucoup l'image du stade, qui devait vachement parler aux gens à l'époque.
Oh oui, l'arène, c'était le lieu ultime du jugement public.
Voilà, la foule dans l'arène qui te hue. L'auteur lui subvertit ça en créant une réalité alternative. Il dit « Oui, on est dans l'arène, mais la foule hostile dans la rue, on s'en fiche ». Il décrit un nuage de spectateurs célestes.
Des figures de la foi qui les regardent des gradins.
C'est ça. Ils sont pas des petites victimes qu'on lynche dans la rue, c'est des athlètes d'élite. Des gladiateurs cosmiques engagés dans un combat glorieux.
C'est puissant, parce que le stigmate social, du coup, il est complètement désamorcé. L'humiliation devient une médaille sportive. Mais pour que ça marche vraiment jusqu'au bout, il manquait un dernier truc. L'urgence imminente.
Le coup de sifflet final qui approche.
Exactement. Et là, l'auteur ose remanier les textes sacrés.
Et c'est là qu'on arrive au truc de fou, la virtuosité textuelle. Il dit « le jour approche » et il fusionne deux prophéties différentes comme un compte à rebours explosif. Il prend la phrase « encore un très peu de temps » d'Ésaïe et la mixe avec une longue citation d'Habacuc.
Le fameux remix.
Ouais. Comment il s'y prend pour réorganiser des textes fondateurs comme ça ? On dirait un DJ qui découpe un vieux classique pour forcer la boîte de nuit à danser.
C'est une super image. Et ça soulève une vraie question sur comment les anciens lisaient leurs textes. L'altération qu'il fait sur Habacuc, c'est un truc de dingue.
Qu'est-ce qui change exactement ?
Dans la traduction grecque de l'époque, la Septante, le texte d'Habacuc disait en gros « Si celui qui vient recule par lâcheté, Dieu ne prendra pas plaisir en lui, mais le juste vivra par la foi. »
Ok.
Et l'auteur de l'épître, lui, il transpose carrément les propositions. Il réécrit pour dire « Si mon juste recule, mon âme ne prend pas plaisir en lui ». Il change le sujet pour que la menace de reculer, ça s'applique directement aux croyants, aux justes.
Mais attends, comment on pouvait justifier ça ? Pour nous, aujourd'hui, prendre un texte sacré et en changer les mots pour l'adapter à sa sauce, c'est quasiment de la manipulation. Comment ces lecteurs acceptaient ce découpage ?
Ça s'explique par la tradition exégétique juive de l'époque, ce qu'on appelle l'approche péchère, qui était hyper courante à Qumran, par exemple.
L'approche péchère, d'accord.
Pour eux, la prophétie, c'était pas une pièce de musée figée. Le vrai mystère du texte, sa vraie signification, elle n'était révélée qu'à la génération qui vivait la crise finale.
Ah, donc c'est pour eux là maintenant.
C'est ça. L'auteur y pense pas du tout qu'il falsifie le texte. Il est persuadé d'en révéler la vraie cible. Face à l'urgence pastorale, parce qu'il y a des vies en jeu, modifier la grammaire pour faire ressortir l'urgence, c'est perçu comme une illumination divine, pas une arnaque.
C'est hyper pragmatique en fait. Soit le juste recule et il est détruit, soit il avance par la foi.
Voilà, une urgence binaire inéluctable.
Et quand la survie de la communauté est sur le fil du rasoir, c'est l'urgence qui dicte la méthode. C'est vertigineux de voir ce mélange de psychologie, de mécénat romain et d'exégèse créative. Mais le docteur De Silva s'arrête pas à l'histoire ancienne. Il insiste sur le fait que tout ça, ça trouve un écho super puissant dans le défi d'aujourd'hui.
Les parallèles sont directs, oui. Il parle d'abord de l'Église persécutée dans le monde aujourd'hui. Dans plein de régions du globe, des gens vivent littéralement l'épître aux Hébreux.
Ouais, des menaces physiques, on te confisque tes terres.
L'exclusion économique violente si tu refuses de renier tes convictions, oui. Donc, pour nous qui sommes en sécurité, le texte, c'est un défi direct. Notre responsabilité, elle doit pas être juste intellectuelle. Ça exige un soutien concret, émotionnel et financier envers ceux qui payent le prix fort.
Bien sûr, c'est essentiel. Mais il y a aussi un avertissement très spécifique pour nous dans le monde occidental, là où globalement on risque pas d'être jeté au lion ou de voir notre maison brûler pour des questions de foi.
Et c'est là que le péril prend une forme beaucoup plus sournoise en fait. Dans notre modernité occidentale, la sécularisation a mis en place une règle non écrite, mais stricte, qui est la privatisation totale des croyances.
Ouais, la foi ça reste à la maison.
Exactement. L'espace public c'est pour le consensus. Ajoute à ça notre culture hyper-matérialiste et ça donne une équation redoutable.
C'est frappant. Au boulot ou même dans un dîner, c'est hyper confortable de s'engueuler sur l'inflation, le dernier film Marvel ou la politique.
Pas de problème, oui.
Mais à la seconde où la conversation glisse sur la foi, sur le sens de l'existence, pfiou, le malaise s'installe. Il y a un blanc et le silence devient la seule porte de sortie sociale.
Et ce silence, c'est exactement l'érosion de ce que les Grecs anciens appelaient la parésia.
La parésia, l'assurance, c'est ça, hein ?
Oui, la liberté de parole publique, l'audace de s'exprimer à visage découvert. L'auteur de la lettre supplie ses lecteurs, n'abandonnez pas votre assurance. Mais aujourd'hui, on ne nous confisque pas cette parole sous la menace d'un tribunal. Elle est étouffée juste par la peur de créer un malaise à la machine à café.
L'obsession de s'intégrer sans friction, quoi. C'est fou. Les croyants du 1er siècle, ils étaient encerclés par une foule qui voulait leur mort sociale. Et ils s'accrochaient à leur parésia. Il refusait de s'effacer.
C'est la grande leçon du texte.
Et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter pour notre réflexion finale. Si on pousse cette logique au bout, on peut vraiment se poser une question troublante sur notre époque.
Quelle forme prend la menace aujourd'hui, oui ?
Bah, imaginons nos nouveaux colisées. La reine romaine aujourd'hui, c'est l'espace numérique, non ?
Les réseaux sociaux, clairement.
Ouais, et la foule hostile, c'est les algorithmes de l'indignation, la cancel culture. On n'a plus besoin d'empereurs ou de lions pour terroriser une minorité. L'ostracisation numérique, ça suffit à imposer le silence à tout le monde.
L'isolement social est numérisé, mais l'instinct de survie psychologique du cerveau archaïque, il est le même qu'il y a 2000 ans. La pression du groupe est immédiate.
Alors, la question se pose, est-ce que notre confort matériel extrême et notre obsession de l'approbation sociale, ça serait pas une menace infiniment plus efficace que la persécution violente ?
C'est une excellente question à se poser.
Est-ce que cette peur d'être isolé sur les réseaux, ça ne nous pousse pas vers une reddition en douceur, sans la moindre goutte de sang, sans soldat à la porte ? On est peut-être en train d'accomplir très exactement l'acte de reculer que l'auteur antique dénonçait.
Une disparition volontaire et bien silencieuse.
Voilà, juste pour éviter le regard de la reine moderne. Alors continuons de nous observer attentivement. À très vite pour une nouvelle plongée dans les profondeurs de nos sources.